Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre à la librairie Terra Nova avec Didier Moineau, auteur de Dérive dans une ville créative, paru aux éditions CMDE.
Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, moi aussi j'ai envie de dire merci à des gens, Paulin, et puis tout le collectif des métiers de l'édition, le CMDE, qui ont édité ce bouquin. Merci beaucoup. Merci bien sûr à la librairie de m'accueillir là ce soir, à la Terra Nova et à notamment Gabriel. Et puis merci aussi à Anne Clerval qui a eu la gentillesse de faire une préface pour ce bouquin qui est présente ce soir. Donc j'espère que peut-être elle souhaitera prendre la parole et participer à la discussion, ça me ferait plaisir. Voilà, en fait ce que je vous propose c'est de moi pas parler forcément très très longtemps. Je vais quand même vous présenter ce livre, bien sûr, c'est pour là que je suis là. Mais ce qui m'intéresse aussi c'est qu'on puisse échanger, discuter ensemble sur votre ville à vous, là, Toulouse, et puis qu'on puisse ensemble comparer ce qu'il peut y avoir de similaire ou pas avec ce que moi je raconte dans ce livre. Donc, je viens vous présenter ce bouquin-là qui s'appelle « Dérive dans une ville créative », dont le sous-titre est « Récit subjectif, critique, politique, partisan, radical, punk, anarchiste et à la limite de la mauvaise foi, des transformations urbaines à Grenoble ». Et j'aime bien lire ce long sous-titre en introduction parce que je trouve que c'est assez juste. Gardez surtout en tête l'avant-dernière ligne qui est « et à la limite de la mauvaise foi » pendant la présentation de ce livre. Alors l'idée du bouquin, au départ, c'est d'essayer de comprendre depuis l'endroit où moi je vis, ce qui nous tombe sur le coin de la figure au niveau des transformations urbaines, des transformations de la ville, de l'agglomération. Ça parle donc de Grenoble, mais je pense qu'on peut faire des liens avec pas mal d'autres villes en France et ailleurs dans le monde d'ailleurs. Alors c'est comme une enquête, ça veut dire que ça fait plusieurs années que je découpe des petits articles dans les magazines de communication municipale et dans la presse quotidienne régionale, que je classe tout ça dans des pochettes et que j'essaye d'ordonner tout ça. Et cette enquête... Elle a pris la forme en fait d'une balade à travers cette agglomération, cette ville de Grenoble et d'autres villes autour. Et en plus, il y a la tentative d'articuler ces constats, ces exemples concrets, avec des concepts théoriques un peu plus larges et qui auraient vocation à s'appliquer évidemment pas seulement à Grenoble, mais dans plein de villes, partout en France et ailleurs. Alors, pour ça, je pars de l'idée que le discours, l'idéologie dominante qui nous est servie aujourd'hui par ceux qui ont le pouvoir, qui ont le pouvoir de transformer physiquement la ville, tourne beaucoup autour du concept de ville créative et de son corollaire, l'idée de classe créative. Alors, bien sûr, il y a des... variante locale, plutôt que de parler de créativité à certains endroits. Par exemple, à Grenoble, on emploie... Enfin, on. On emploie assez peu le mot de ville créative, mais on parle plutôt sans arrêt d'innovation, de ville innovante, de ville intelligente, voire même de smart city. J'étais à Marseille il y a quelques temps pour présenter ce bouquin, et puis vous n'êtes pas sans savoir que Marseille a été capitale européenne de la culture. Voilà une autre façon de traiter ce sujet-là. On va pouvoir parler aussi de ville attractive à certains autres endroits. Donc évidemment qu'il ne faut pas le prendre comme quelque chose de monolithique. Est-ce que ma ville est une ville créative, et de partir vraiment de ce mot-là? Mais bien sûr qu'en fait, il y a une idée, un concept en fait, qui se décline de manière un peu différente à certains endroits, mais avec une logique quand même sensiblement similaire, à savoir que dans un contexte de marketing, de compétition mondiale entre des villes, pour devenir des pôles d'attractivité, il y a l'idée qu'il faut se positionner comme une ville intellectuellement, culturellement performante pour gagner une place dans cette compétition-là. Donc cette histoire de classe créative, très rapidement, et au risque de faire des gros raccourcis, on pourrait y revenir après, mais c'est un concept qui a été inventé et qui est vendu par quelqu'un qui s'appelle Richard Florida. En gros, très rapidement, dans le capitalisme à papa, les gens, selon ce Richard Florida, vont là où il y a des grosses entreprises pour travailler. Les gens se déplacent là où ils estiment trouver du travail. Alors qu'aujourd'hui et à l'avenir, ce serait l'inverse, à savoir que les entreprises chercheraient pour s'implanter des villes où elles trouveraient une ambiance créative, peuplée de gens plutôt cool. Cette fameuse classe créative qui est un petit peu difficile à définir et qui est un concept qui est très très discuté. Et je ne vais pas là rentrer dans ces détails-là, mais on peut tout à fait considérer que c'est un concept un peu fumeux. Toujours est-il que ce Richard Florida vend ses conseils. Bon, là, en France, par exemple, il a été payé par, je crois, la région Nord-Pas-de-Calais pour vendre ces conseils-là pour développer cet endroit. Donc, lui a mis en place, pour essayer, pour les décideurs et décideuses locaux, locales, pour savoir si votre ville est créative ou si elle peut le devenir, il met en place des indicateurs et qui permettent de mesurer en fait tout ça. Alors son truc de base c'est les 3 T, donc rien à voir avec les gens comme mon âge se rappellent peut-être d'un groupe qui s'appelait les 3 T, rien à voir. Donc les 3 T c'est talent, technologie et tolérance. Ces trois indicateurs de base se déclinent en fait en différentes catégories, par exemple pour savoir si votre indice de tolérance dans votre ville est assez élevé, il va vous falloir mesurer la proportion de la communauté gay homosexuelle dans votre ville. Voilà, c'est un exemple de ce que ce type vend aux municipalités, aux agglomérations, etc. Alors du coup, moi j'ai essayé un petit peu dans ce bouquin de voir comment toutes ces idées-là pouvaient se traduire chez moi, entre guillemets. Et à travers l'outil de la balade, j'essaie de me pencher sur des exemples concrets de comment ces choses qui peuvent paraître être finalement de l'ordre des idées et du concept ont en fait une efficience, enfin des résultats très concrets en fait, qui transforment effectivement très concrètement la ville physiquement et politiquement, socialement, économiquement. Donc, rapidement, je ne vais pas vous faire toutes les étapes qui constituent chaque chapitre de ce bouquin et qui essayent d'explorer des facettes différentes de comment on peut décliner cette idée de créativité. Mais je vais vous en dire trois principales là pour cette présentation. Une des étapes, un des endroits qu'on traverse dans la ville de Grenoble à travers ce bouquin, c'est le quartier qui s'appelle le quartier Saint-Bruno, qui est ce quartier qu'on retrouve dans d'autres villes, qui se situe derrière la gare, qui est traditionnellement un quartier qui était des champs, puis qui a été, ça a été des faubourgs de la ville, puis un quartier ouvrier, et aujourd'hui un quartier, un lieu de fixation en fait, pour pas mal de populations immigrées. où un processus d'embourgeoisement est en cours. Alors, il y a une littérature assez abondante sur cette histoire de gentrification. Il y a plein de choses à lire, en fait. Il y a plein de choses à lire sur ça. C'est un processus que peut-être certaines d'entre vous connaissent déjà assez. Et puis, dans ce quartier Saint-Bruno, j'essaye de dérouler la ficelle de la créativité sous l'angle de la culture, y compris alternative, et comment la culture, le champ économique de la culture, a rendu au fil des années ce quartier plus attractif qu'il ne pouvait l'être à l'époque où il était plutôt rempli d'ateliers, d'usines, de petits ateliers d'artisans, etc. Voilà pour une première étape. Juste à côté de ce quartier Saint-Bruno, on continue la promenade et puis on arrive à la presqu'île scientifique. Donc là, il y aura peut-être des liens à faire avec Toulouse, j'imagine. Peut-être que vous savez que Grenoble, dans cette histoire de compétition mondiale, se positionne, on va dire, ou se distingue par le fait d'avoir, depuis l'après-guerre, beaucoup développé le secteur des hautes technologies, notamment les micro- et nanotechnologies. Donc, sur cette presqu'île, à l'entrée de cette presqu'île scientifique, qui était, on dit presqu'île parce que c'est là que se rejoignent les deux rivières, l'Isère et le Drac. Ça a été un polygone d'artillerie. Enfin bon, c'était des terrains traditionnellement qui étaient possédés par l'armée. Et puis on voit que l'armée a toujours une emprise sur ce qui se fait ici, puisque ici sont implantés depuis un certain nombre d'années des laboratoires, des centres de recherche, un nouveau campus. Donc le plus gros agent à cet endroit, c'est Minatech pour micro-nanotechnologie, qui est un espèce de gros centre de recherche à l'échelle mondiale et européenne et mondiale, quoi. Donc à cet endroit de la ville, on essaye de voir comment cette idée de créativité, qui là va plutôt être placée sous le signe de l'innovation, comment elle transforme concrètement cet endroit de la ville. Qui sont les gens qui viennent y travailler, de quels revenus ils disposent, comment se transforme cet endroit. Alors en ce moment, on essaye de créer, d'étendre le centre-ville jusqu'ici, d'étendre la ville jusque-là, puisque c'était un endroit qui était un petit peu mort. Il faut imaginer une grande avenue qui s'appelle l'avenue des Martyrs, la bien nommée, avec des colonnes de grillage surmontées de fils barbelés, avec sur votre gauche un réacteur nucléaire, sur votre droite Schneider Electric, des kilomètres d'entrepôt. Et à cet endroit-là de la ville, on tend à construire plus de résidences pour les gens qui travaillent directement ici. Donc beaucoup d'ingénieurs qui viennent travailler là. Quelques commerces, parce que quand même, c'est vrai que c'est un peu mort cet endroit, il faudrait quand même le rendre plus sympathique. Et puis, ces dernières années, on voit qu'on rase les entrepôts, et ce qui était un lieu de production matérielle, pour plus aller dans le sens des labos de recherche, avec toute une partie dédiée à ces recherches qui sont à mi-chemin entre écologie et technologie, tout un bâtiment où les gens se consacrent à faire des recherches sur tout ce qui concerne la ville communicante, les capteurs, tout ça dans un but de réduire les émissions de déchets, etc. Donc voilà sur quoi cet endroit de la ville se positionne, avec des exemples très très clairs de comment ça change et en fonction de ce qui s'y passe. À titre d'exemple, une maison qui est occupée illégalement pour loger des familles qui en ont besoin se retrouve expulsée, puis rasée, puis à la place de cette maison, on construit des labos de recherche avec des animaux au sous-sol sur lesquels on implante des électrodes sur leur cerveau pour travailler sur les neurosciences, ce genre de choses. Donc voilà à quoi ressemble la créativité à cet endroit-là de la ville, et voilà comment ça se transforme. Et puis, une troisième étape dont je peux vous parler, là, c'est... On parcourt la ville, on monte un moment sur la Bastille, qui est cette petite forteresse qui se trouve au-dessus de Grenoble, vers laquelle vous pouvez aller en prenant ces fameuses bulles, ce téléphérique qui vous fait franchir l'Isère et avoir une vue imprenable sur cette ville qui est plutôt moche, et votre regard va probablement se porter plutôt vers les montagnes alentour. Mais quand on redescend de la Bastille, on arrive à un endroit qui s'appelle la Casemate, qui est un CCSTI, pour Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle, si je développe bien l'acronyme. Donc, qui est un endroit de vulgarisation, on va dire, à mi-chemin, le musée, l'endroit où on fait des ateliers, on y accueille beaucoup de scolaires. C'est par exemple à cet endroit-là qu'a été montée l'exposition sur les nanotechnologies, dans l'optique de faire de la vulgarisation sur ce thème scientifique-là auprès de la population. Exposition qui a été inaugurée plusieurs mois après que Minatech ait ouvert. Donc c'est toujours intéressant de voir aussi comment on informe en fait, les gens qui vivent sur place, c'est-à-dire que une fois que les choses sont déjà là et déjà faites. C'était intéressant, pour la petite anecdote, moi je m'étais fait sortir de cette exposition alors que j'y allais dans le cadre d'un cours à l'université. Et, c'est toujours intéressant de voir que certains sujets en fait, cristallisent aussi des tensions, puisqu'on est dans un endroit qui s'apparente plutôt à un musée, un endroit de vulgarisation, et à l'inauguration du coup de cette expo, dans un contexte où il y avait des critiques, en fait, justement, de ce que voulait dire le développement des nanotechnologies dans cette ville, à la fois en termes de est-ce qu'on veut vraiment développer ces choses-là et qu'est-ce que ça veut dire pour les changements concrets dans la ville. Il y avait à l'entrée de cette exposition plusieurs voitures de police, donc c'est toujours intéressant de voir comment aussi comment on vulgarise, comment on considère les vulgaires, du coup, qui nécessitent d'être vulgarisés. Et alors, dans cette casemate, notamment, là, on peut s'intéresser à encore un autre versant de cette histoire de ville créative et de créativité à travers... Il y a dans cette casemate un Fab Lab qui est implanté. Fab Lab pour laboratoire de fabrication. Et là, du coup, j'essaye de me pencher un peu sur toute ce pan de la créativité de l'artisanat 2.0 qui est pas mal mis en avant dans ce genre d'endroit, et avec toutes ces idées de do it yourself, de faire soi-même des choses, ces idées d'autonomie, de reprendre part sur le processus de fabrication des objets. Et j'essaie de pointer comment alors à cet endroit-là il y a comment ils appellent ça, du maraîchage aérien, c'est-à-dire qu'ils ont planté des courgettes sur le toit du truc, quoi. Et donc des choses qui peuvent paraître un peu inoffensives, voire positives en fait. Je veux dire, on aura du mal à critiquer le fait de planter des courgettes en ville, à part qu'il faut être bien motivé pour les manger après, vu la qualité de l'air. Mais j'essaye de critiquer un peu comment ce versant-là de la créativité, de la ville créative, sous couvert d'autonomie et de reprise en main sur les processus de production des objets qui nous entourent, vient en fait beaucoup apporter de l'eau au moulin des grands groupes industriels. D'ailleurs, c'est pas un hasard si ces endroits-là sont financés très largement par la Fondation Orange, par exemple, qui finance certaines expos, le lobby de l'électricité et du nucléaire qui vient aussi s'inviter là. Chèque aux usines Renault à Billancourt, je crois qu'ils ont un Fab Lab à l'intérieur même de l'usine pour inviter, justement, entraîner, créer un contexte créatif, justement, pour plutôt les cadres, hein. c'est pas les ouvriers qui sont sur la chaîne de Renault qui sont invités à venir se faire la main au Fab Lab, encore que. Donc voilà, et j'essaie de montrer comment ce qui nous est présenté comme de la créativité artisanale, en fait, vient finalement accompagner, légitimer les mutations actuelles du capitalisme. Comment ça vient relancer la machine d'une certaine manière. J'en parle pas beaucoup dans le bouquin, c'est juste une note de bas de page, mais pendant la fin de la rédaction de ce livre... Le Fab Lab de la casemate a été incendié, et c'est un acte qui a été revendiqué politiquement. Il y a eu un communiqué de revendication avec un argumentaire en fait qui expliquait pourquoi les personnes avaient choisi de détruire cet endroit-là. Donc le but ici, c'est pas de discuter de stratégie politique autour de ça. Ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, c'était la levée de bouclier politique général qu'il y a eu en fait suite à cet acte politique, à cet incendie. Et c'était très très intéressant parce que quelques mois avant, c'est des entrepôts d'une gendarmerie qui avaient été incendiés, qui avaient pris feu, qui avaient été rasés. Et il y avait eu, bien sûr, vous imaginez bien que la caste politicienne locale s'était bien sûr prononcée sur cet acte, mais pas autant et pas aussi fort que quand c'est la casemate qui a été incendiée à Grenoble. Et je trouvais ça intéressant. Il y a eu vraiment une levée de bouclier très très large des anticapitalistes à l'extrême droite, en fait, pour dire que si on s'attaquait à cet endroit qui était un lieu de culture, c'est qu'on s'attaquait à la culture, donc qu'on était fasciste, nazi. Voilà. Il y a eu tout un tas de noms d'oiseaux qui ont été proférés à ce moment-là dans les médias locaux. Et je trouvais que c'était assez parlant, parce que du coup, on voyait que s'attaquer à cette facette-là de la créativité, de la ville créative, de la culture, à cet endroit-là, c'était vraiment s'attaquer à quelque chose qui pourrait ressembler à l'esprit de Grenoble. Parce que la culture scientifique à Grenoble, qui est du coup la spécialité créative de la ville, quoi, cette histoire de culture scientifique et d'innovation scientifique, s'attaquer à cet esprit-là, c'était vraiment s'attaquer à la fois, bon, économiquement, bien sûr, à une grosse part de l'économie locale, mais aussi idéologiquement, et c'est peut-être ça qui était le plus défendu, s'attaquer idéologiquement à ce qui fait tout le mythe, en fait, de cette ville et ce qui fait toute son image depuis des années. Et on a constaté à cette occasion que, du coup, bien sûr, il ne fallait pas toucher aux gendarmes et il fallait encore moins toucher à l'imprimante 3D de la casemate. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et assez révélateur pour comprendre Grenoble. Alors vous me direz, du coup, après, peut-être ce qu'il en est pour ici, et s'il y a un esprit de Toulouse quelque part. Est-ce que cet esprit de Toulouse se balade en short fluo le week-end en courant dans la montagne, comme l'esprit de Grenoble le fait à Grenoble? Est-ce qu'il a une autre tenue? On pourra discuter de ce genre de considération. Et est-ce qu'il est inflammable? Je ne sais pas. C'est que les matières textiles synthétiques prennent assez bien, paraît-il, mais bon, ça reste à... Bref. Donc voilà, je vous raconte pas toutes les étapes, peut-être que vous le lirez si ça vous intéresse, mais on voit que cette idéologie là qui accompagne les transformations de la ville, si on prend aussi un peu de recul, elle a comme pilier assez fort l'écologie et la technologie. On croise dans cette balade des penseurs, on va croiser Yann Mouly-Boutan, on va croiser Jeremy Rifkin, on va croiser André Gortz, qui ont tous en commun, en fait, de pousser très fort la réflexion, en fait, sur les avancées, les mutations en cours du capitalisme et donc des villes, et de comment renouveler tout ça à travers donc l'écologie et la technologie. Et à ce titre-là, alors là, Grenoble fait figure, effectivement. Le discours de Grenoble depuis l'après-guerre, c'est que c'est un laboratoire, cette ville, à la fois très concrètement, c'est-à-dire qu'il y a des laboratoires partout, de recherche, scientifique, etc. Mais aussi qu'on y teste des choses. Et vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Grenoble est dirigée depuis quelques années maintenant par une alliance entre Europe Écologie Les Verts et certains partis de gauche et des associations citoyennes. En tout cas, les écolos sont aux manettes de cette ville. Donc là, on a comme une nouvelle étape, en fait, dans le laboratoire grenoblois. Et ceux qu'on peut nommer les écotech, écolo-techniciens, en fait, ont effectivement porté aux manettes, au pouvoir dans cette ville, un maire qui leur ressemble beaucoup, ce qui était déjà le cas, en fait, pour les maires précédents. Mais là, on a vraiment une réactualisation de cette figure grenobloise. Et alors, c'est du coup très très intéressant de constater que cette version-là du laboratoire grenoblois continue bien sûr à transformer la ville en permanence, continue à chercher bien sûr à être attractive, continue à se développer malgré et en dépit de positions écologistes. Il n'y a pas de problème majeur à continuer à financer des grosses entreprises. Bon voilà, ce maire écologiste est par ailleurs un ancien DRH de chez Hewlett-Packard. Donc il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a a priori pas pour eux de gros problèmes de conscience là-dedans. Et on voit que ces changements-là ne sont pas... sont pas moins violents que ce qui s'est passé depuis fort longtemps, et que les gens continuent d'être expulsés, déplacés, que les coups de matraque continuent de tomber quand quand il y a des oppositions, qu'on continue de se faire gazer. Voilà, la seule chose intéressante, c'est que maintenant, on a des amis ou des anciens amis qui sont de l'autre côté de la ligne de CRS quand il y a des manifestations, puisqu'ils se trouvent être dans l'équipe municipale. Donc ça, c'est un peu la particularité en fait grenobloise en ce moment. Voilà, tout ça pour vous dire que ces transformations-là, j'ai parlé un peu avant de concepts et d'idées, mais qu'on constate que même dans sa version écolo, technicienne, qui peut paraître assez propre, assez polissée, non, il y a des implications très très concrètes et parfois violentes en fait des transformations de la ville. Alors, je me pose la question à la fin du bouquin, parce que ça aurait été difficile de l'éviter, face à cette vision ou ces visions-là de la créativité et de la ville créative, qui est in fine toujours marchande, puisque Richard Florida, s'il vous explique comment faire de votre ville une ville créative, c'est pas pour le bonheur d'avoir des jolies affiches sérigraphiées sur les murs de votre ville, c'est bien pour un développement économique, pour que ça rapporte de la thune, très, très concrètement. J'essaye de me poser la question de quelle créativité on veut, puisque ce serait un peu idiot de rejeter un bloc, comme ça, un mot ou une idée, en se disant, voilà, c'est quelque chose qui a été récupéré par le capital, donc on peut plus rien en faire, c'est fini. Et du coup, si on veut continuer à être créatif d'une certaine manière, comment, avec quels outils, dans quel but? Comment on va discuter avec ces gens du Fab Lab qui, de bonne foi, en fait, pensent vraiment se réapproprier la production d'objets, comment on va au-devant des gens, comment on se réapproprie nous-mêmes certains moyens de production. Qu'est-ce qu'on fait de cette idée de créativité? Donc, je vous rassure, j'ai pas de... Comme tous les livres, en fait, il faut jamais répondre aux questions à la fin, parce que c'est vachement mieux d'ouvrir, en fait, le débat, même si j'ai mes petites idées. Certains parlent de créativité ordinaire, de créativité du quotidien. Moi, ça va vous paraître peut-être un peu bébête comme exemple, mais moi, je me rappelle de mes grands-parents et de mon grand-père qui m'a appris à scier un bout de bois avec des morceaux de choses qui sortaient de l'usine, en fait. Pas pour faire de la thune avec, mais juste pour que ce soit utile et que ça rende service. Et voilà, on peut se poser ce genre de questions. Et d'ailleurs, en parlant de questions, moi, je vais m'arrêter là. Et puis, s'il y a des choses qui sont pas claires et tout, je vais y répondre avec plaisir. Et puis, si surtout on peut discuter, ça m'intéresse surtout beaucoup. Mais simplement, avant de vous passer un peu la parole, je chante un peu des questions qu'on me pose. Enfin, deux remarques qui m'ont souvent été faites en fait vis-à-vis de ce bouquin. La première, c'est parfois c'est un peu léger au niveau argumentaire. Donc oui, c'est vrai. Tout à fait. Je vous rappelle la fin du sous-titre, à la limite de la mauvaise foi. En fait, l'idée aussi, c'était d'assumer ce côté subjectif, en fait, de se balader dans une ville, de voir ce qu'une personne qui sort pas du lot a à en dire. Alors bien sûr, j'ai essayé de faire une enquête et d'articuler, de faire corps avec tout ça, quoi, et qu'on n'en ressorte pas moins bête si possible. Mais je crois que c'était aussi... C'est assumer aussi un moment de faire un peu une charge et de venir chercher de manière un peu critique par moment les choses, et que parfois c'est pas un mal, et que quand on fait de la critique sociale, on a aussi le droit de rigoler des fois, ça peut être pas mal aussi. Et puis alors l'autre remarque qu'on me fait parfois, c'est qu'on me fait souvent, c'est tiens, c'est incroyable quand même d'avoir réussi à écrire ce bouquin sans jamais citer pièce et main d'œuvre. Alors je sais pas si tout le monde ici cerne qui sont pièce et main d'œuvre. Donc très rapidement, c'est un un collectif d'individus qui, depuis longtemps, une quinzaine d'années peut-être, fait de l'enquête critique sur Grenoble et beaucoup sur le versant technologique, qu'on travaillait, qu'on poussait la réflexion très très loin sur la critique des nanotechnologies et effectivement sur comment tout ça transforme la ville concrètement. Donc si vous tapez Didier Moineau dans un moteur de recherche, vous verrez même qu'il a même publié des textes avec pièces et main-d'œuvre il y a une dizaine d'années. Et maintenant, je crois que j'ai envie de retourner la question quand on me demande « Mais comment tu fais pour pas citer pièces et main-d'œuvre ?» J'ai envie de répondre « Comment on fait pour continuer à citer pièces et main-d'œuvre ?» Puisque, moi, j'ai été bien sûr nourri très fort de ce qu'ils ont écrit pendant des années. Et c'est pour tout un pan de leur pensée, une pensée précieuse. En revanche, j'avais pas envie de citer des gens qui tiennent des propos racistes, sexistes, homophobes, misogynes, lesbophobes. Ça me paraissait pas judicieux du tout. Du tout. Ouais. Du coup, ce serait très difficile de résumer les querelles politiques qu'il y a eu à Grenoble depuis des années. Mais effectivement, non, je ne cite pas pièces et main-d'œuvre. C'est un choix réfléchi parce que j'estime que par exemple, je trouve que ça ne tiendrait pas la route de dire oui, mais ils sont très très forts. Effectivement, ils tiennent des positions complètement sexistes ou masculinistes, mais ils sont très très forts sur la pensée anti-industrielle. Il y a plein de gens qui ont écrit plein de trucs très intéressants aussi sur ça que je cite par ailleurs dans ce livre et qui n'ont pas ces positions-là. Et si on dit oui, effectivement, tel gars est fasciste, mais il est très très fort en potager, du coup sur le potager tu ferais bien de le citer. Non, je suis désolé, je vais pas arriver à le citer, quoi. Je trouve c'est trop compliqué. Voilà, donc je vous invite à ne pas lire les derniers textes qu'ils ont écrits. Et je passe la parole. Je sais pas si on passe le micro. Non, on passe pas le micro, mais on peut se parler comme ça maintenant pour la suite.
Tu t'as évoqué les 3T. Ouais. Tu as parlé du troisième qui me semblait être tolérance.
Tolérance.
Alors tolérance, ça laissait envisager quelque chose d'assez positif, éventuellement social. Donc ça vient faire quoi en fait? Parce que ça paraît un peu complètement déconnecté du reste, quoi.
Ouais, effectivement, c'est un peu le propre. Bah, ça marche aussi pour créativité. Hein. Effectivement, ça peut paraître un peu absurde de se dire, mais pourquoi écrire un bouquin qui m'a critiqué cette idée de créativité ou quoi? Alors, dans les 3T, effectivement, il y a donc c'est talent. Talent, c'est positif aussi. Talent, technologie, on peut en discuter. Et tolérance, bon, bah, c'est positif aussi. Et en fait, c'est bien tout le problème de cette histoire de ville créative et de classe créative. À savoir que le but c'est de débusquer un contexte positif dans une ville. Et effectivement, dans ce contexte positif vient intervenir cette idée de tolérance. Et alors, le maître étalon un peu de la ville créative, ça pourrait être San Francisco par exemple. Et donc, si on prend en modèle un peu pour comprendre un peu mieux ce truc-là, cette ville de San Francisco, on constate qu'il y a eu des croisements entre plein de communautés différentes dans cette ville qui ont contribué à créer effectivement une ambiance créative dans cette ville. Dans ces communautés-là, il y a la communauté hippie dans les années 70, où il va y avoir des porosités très fortes avec la communauté hacker et les premiers développements technologiques, et une communauté gay assez forte qui, bon ben voilà, ça c'est après, c'est Florida, alors on peut ne pas partager bien sûr ce constat. La communauté homosexuelle poserait dans une ville un contexte, si elle est assez forte, implantée, pas trop discriminée, pas attaquée trop fortement, contribuerait du coup à développer une ambiance de tolérance, ce qui serait du coup globalement positif pour faire de la ville une ville créative. Voilà, je sais pas si c'est plus clair, mais... Bon, alors il y a des trucs dans les index et les trucs de mesure de Florida, il y a des trucs qui paraissent vraiment idiots, hein. Enfin, dont celui-là en fait. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, il faudra vraiment creuser et critiquer très fort en fait ce truc-là, parce que lui, de sa position d'homme blanc hétérosexuel vient poser des indicateurs et des calculs sur la communauté homosexuelle et tout, bon, voilà, c'est une manière de servir de la vie des gens de manière un peu étrange, à minima, quoi. Mais...
Et du coup, t'as dit qu'il avait un peu influencé la région Nord-Pas-de-Calais. Oui. Je me demandais dans quelle mesure il avait influencé celle de la région Rhône-Alpes. Enfin,
ouais,
voilà, dans quelle mesure le développement là, dont tu parles de Grenoble s'insère dans le sillon de sa pensée ou pas. Enfin, qu'est-ce que...
Ouais. Oui, alors du coup, autant c'est très facile à voir pour la région Nord-Pas-de-Calais parce qu'ils l'ont payé très très cher pour que lui dise voilà comment il faut faire à partir de maintenant. Donc là, effectivement, c'était très clair. Après, du coup, pour Grenoble, il n'a pas été payé par la ville ou par l'agglo ou par la métropole pour dispenser ses conseils et que ses conseils soient appliqués. Mais par exemple, un exemple de comment... une personne peut être un entrepreneur d'idéologie à un moment et comment ça peut se retrouver à un échelon très proche, c'est que moi j'habite à Fontaine du coup, qui est une ville de la banlieue de Grenoble, et là ces dernières années dans la communication municipale, à un moment Fontaine est devenue créative, ville créative d'un coup comme ça. On ne sait pas pourquoi, le journal municipal était découpé un peu en tranches, alors il y avait Fontaine, ville humaine, ville qui compte, ville humaine, puis il y avait un peu des encarts comme ça en haut des pages, une nouvelle maquette de la com municipale, et du coup comme ça d'un coup paf, Fontaine devient active et créative sans que concrètement, si tu veux, il y ait des si tu veux, je pense qu'ils n'ont pas du tout assez de sous pour payer Fontaine, pour payer Florida en fait à Fontaine, et tant mieux, mais par contre, on voit comment ça ruisselle et comment, bah, y compris des... Alors là, on a affaire à une ville de banlieue tenue par le Parti communiste depuis l'après-guerre. Comment, bah, par exemple, ce type de ville un peu qui sont... C'est un peu les losers de l'agglomération grenobloise, en fait, Fontaine. C'est plutôt une ville de gens qui n'ont pas beaucoup de sous. Bien sûr, c'est un front d'embourgeoisement parce que les ingénieurs viennent peu à peu habiter là parce qu'on est juste de l'autre côté de la rivière par rapport à la presqu'île scientifique. Donc il y a tout un enjeu d'image, effectivement, à travailler. Et comment, ben, là on est dans la com, hein, on est dans le marketing, mais comment, ben, par exemple, voilà un exemple concret de comment ça arrive jusque chez nous, quoi. Après, c'est vraiment de. C'est juste marqué dans le journal municipal, quoi. Ils ont jamais. Je pense même que même eux ne voient pas vraiment à quoi ça fait référence, et que je pense que si tu vas voir le maire de Fontaine et que tu dis alors Richard Florida, je ne suis pas sûr que. Et Grenoble, alors c'est plus, ils ont fait venir par contre Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin, qui est le théoricien de la troisième révolution industrielle. Donc il nous dit, voilà, attention, sortez les tambours, c'est la troisième révolution industrielle. Je ne vais pas refaire les deux autres, mais en gros, l'informatique, il y a une place très importante, et l'écologie... et l'écologie aussi. Lui, il parle d'un... Jeremy Rifkin, il parle d'un âge de l'accès. Ça va être un peu... C'est plus très bien vu maintenant d'être propriétaire de sa maison ou de sa voiture. On préfère avoir accès à des choses en payant comme ça momentanément, mais les choses un peu sclérosées comme ça et tout, voilà, on va être dans un capitalisme un peu comme ça, à la demande, à la carte. Je peux pas trop résumer tout ce qu'il a écrit. Je vous invite à lire ces trucs, parce que ces bouquins, parce que ce type là au même titre que Florida est très très entendu, et que ses idées sont mises en œuvre. Et lui par exemple est venu à Grenoble. Il y avait tout un cadre de conférences qui s'appelait Experimenta, expérimenter à Minatech. Donc là, on était bien les deux pieds dedans. Et c'était la star de cette série de conférences, Rifkin, quoi. Et donc lui, par contre, voilà. En fait, il y a différentes personnes qui vont un peu dans le même sens. Et c'est pas une personne qui va déverser vraiment un truc très précis, mais il y a un ensemble qui fait idéologie, qui fait une pensée à l'œuvre, où effectivement ces penseurs-là sont invités un peu partout et sont bénéficient d'une aura très forte, quoi. C'était la tête d'affiche, Rifkin, de ce truc-là, qui est déjà la grosse conférence de prospective un peu à mi-chemin entre la science et le social, du gros centre de recherche au niveau européen de Grenoble et tout, et donc lui c'était le gars qu'on a écouté, la star et tout, donc c'est parlant, quoi. Et à Toulouse, c'est bien.
Ah, ça a l'air.
Et c'est quand tu as débuté un petit peu ton enquête, en fait, parce que dans le bouquin, il y a quand même une vision plus haut et dans le temps aussi.
Oui.
Du coup, tu n'hésites pas à reconvoquer voilà, des expériences d'il y a 10 ans ou ouais. plus. Oui. Comment ça s'est passé voilà, pour toi, cette maturation, ce chemin jalonné justement de perceptions différentes aussi au fil du temps, du lien avec certains collectifs, etc. Et de l'évolution aussi concrète de la ville.
Moi, je crois que ça fait un peu plus de 15 ans que j'habite à Grenoble. J'y suis venu comme en moyenne 60 000 personnes pour faire des études. C'est une ville étudiante. Toute l'agglo, c'est 400 000 personnes. La ville de Grenoble, spécifiquement, je ne sais pas, mais 50-60 000 étudiants, ça fait une part considérable en fait, de la population. Moi, j'ai atterri là parce que je venais de la Savoie et que quand j'étais venu à Grenoble visiter des amis, j'avais vu des affiches photocopiées pour des concerts de punk hardcore, quoi. Et je m'étais dit, c'est la mec, quoi. Enfin, faut à tout prix aller là-bas, ça va être fantastique. Il va se passer vraiment plein de choses et tout. Donc, faire des études, c'était l'excuse, encore que ça m'a pris pas mal de temps, mais ça m'a permis d'aller à un certain nombre de concerts. Et par ce biais-là, en fait, de rencontrer, en fait, effectivement, des gens, un mouvement politique, en fait, très fort, qui était le mouvement squat et punk et anarchiste du début des années 2000, quoi. Moi, mon parcours, ma porte d'entrée, je vais pas remonter à quand j'écoutais Rage Against the Machine à 14 ans et que je me disais qu'il fallait à tout prix être révolutionnaire et tout, parce qu'on a tous et toutes des sensibilités, des choses qui font qu'on va s'intéresser à comment les choses bougent et tout ça. Et je vais pas vous raconter comment on m'a mis un drapeau noir dans les mains à 17 ans dans une manif et que j'ai trouvé ça vraiment super. Mais en tout cas, du coup, en rencontrant ce mouvement squat notamment, il y avait quand même dans cette idée de squatter, d'occuper des espaces, quand même un petit peu l'idée de s'intéresser à comment la ville se transforme, quels sont les rapports de force qui s'entretiennent dans cette ville et d'essayer de comprendre comment ça se passe. Et j'étais étudiant en sociologie, donc je dis que je suis sociologue loupé, tant mieux, la plupart du temps, mais ça m'a apporté des billes, quoi. Enfin, de faire des études supérieures, ça m'a apporté aussi une façon de regarder les choses un petit peu. Et puis, la pratique, quoi. Squatter, se faire taper sur la gueule par un agent immobilier parce qu'on vient lui faire perdre des sous dans une vente d'appartements privés. Tout ça, c'est aussi pour dire que toutes ces histoires de transformation de la ville, c'est pas que des idées, quoi. Enfin, je veux dire, on est un certain nombre à l'avoir vécu physiquement, dans nos corps. Enfin, je veux dire, c'est très concret. Après, j'ai plus habité en squat aussi un peu parce que je trouvais qu'on n'avait pas été collectivement très bon, très stratégique dans notre manière de porter nos idées ou de porter des pratiques. Pouvait être peut-être largement comprise et puis pendant tout ce temps-là et du coup après le chemin c'était juste de regarder ce qui est là, quoi. De regarder ce qui est là, ça veut dire aussi faire des trucs un peu pénibles, de lire des choses pénibles, ce que je disais tout à l'heure, quoi, découper des articles, recouper des choses et tout. La plupart du coup des choses qui sont dans ce bouquin, c'est vraiment j'essaye de pas inventer ou de pas prêter des intentions, mais de vraiment citer ce qui est écrit noir sur blanc dans ce qu'on nous glisse dans notre boîte aux lettres, en fait, déjà, tout simplement, quoi. Et du coup, oui, je me base un peu effectivement sur cette histoire-là, quoi, parce que j'estime qu'elle est elle est précieuse aussi, même si bien sûr il y a des échecs, qu'il y a des fois ça fait un peu mal, qu'il y a des engueulades, qu'il y a des dissensions, que cette histoire-là, en fait, si c'est pas nous qui la documentons aussi, personne va le faire pour nous, quoi. Et que du coup, c'était aussi un petit peu l'occasion, effectivement, en se promenant à travers cette ville, cette agglomération, de renommer, de repointer, de rediscuter, de tentatives, y compris dans lesquels moi j'ai été personnellement impliqué, quoi, effectivement. Donc ouais, je trouve ça bien d'assumer un côté à la fois théorique et puis de dire que ben, tout ça, ça a aussi été des émotions, des choses ressenties, que tout ça n'est pas complètement désincarné, quoi. Au contraire. Et donc, voilà, quand je me balade dans Fontaine et que je repasse devant ce qui était le squat du Kremlin, et qui était un endroit où on habitait à 10 ou 15 et où on a organisé des concerts de punk. C'est maintenant une résidence de standing, comme on dit, où l'architecte a jugé bon de mettre des petits toits façon usine, comme ça, pour garder un petit peu quand même l'esprit usine du lieu. Puis voilà, j'essaye de me reposer des questions quoi, sur comment ce truc-là a été effectivement une chaudronnerie, un truc de métallurgie, comment nous, les punks, on l'a ouvert, puis que ça a été re-abandonné, puis rasé, puis quand je passe avec ma fille en vélo devant, je dis, bah, tu vois, là, c'était ma chambre, maintenant, c'est ça. Enfin, voilà. Je trouve ça intéressant de mélanger tout ça, en fait. Je trouve que c'est un positionnement voilà, personnel, mais j'estime que c'est peut-être, du coup, parfois plus facile de s'identifier ou de comprendre par ailleurs ce que j'allais dire d'un point de vue plus théorique quoi, mais...
Et par rapport à ça en fait les anciens, enfin, l'ancienne génération ouais. Tu parlais de quelqu'un de ta famille là, qui travaillait dans ouais. le musée et tout ça, donc la population de Grenoble enfin, est-ce que tu es allé au-devant des entretiens, est-ce que tu as pu ramasser des sources qui montrent un peu aussi je sais pas le désespoir un peu de ces personnes-là qui voient partir toute une époque, je sais pas. Est-ce que tu as pu...
J'ai pas fait d'entretien pour ce bouquin. Par contre, depuis 15 ans, je discute avec des gens, donc ouais. C'est moins informel, mais bon, ça te permet aussi d'éponger plein de choses, quoi. Il n'y a pas... Moi, j'ai jamais rencontré dans le quartier Saint-Bruno des ouvriers ou anciens ouvriers qui seraient encore là et qui tiendraient un discours qui serait vraiment nostalgique, d'une utilisation de l'espace public, d'ambiance et tout. Tout ça, c'est consigné dans des livres, mais les gens eux-mêmes... voilà. Très difficile à dire, quoi. Enfin, effectivement, peut-être que du coup, pour le coup, il faudrait vraiment mener des entretiens. Moi, j'ai pas fait ce boulot-là, aussi pour la simple et bonne raison que des ouvriers dans Saint-Bruno, il y en a plus trop. Il y en a plus trop. Subsiste au centre du quartier Saint-Bruno l'usine Arémont, qui est, alors attention, Tintin, l'usine qui a breveté le bouton pression. Donc là, succès mondial. Ne rigolez pas parce que, effectivement, enfin maintenant ils ont des usines partout dans le monde, en fait. Bon, ils font maintenant de l'équipement pour les bagnoles et ce genre de choses. Mais ils ont gardé, un peu probablement par nostalgie et pour l'image, un petit peu un centre de production dans le quartier Saint-Bruno, qui est vraiment un des derniers vestiges de production industrielle en fait, dans le quartier. Et c'est intéressant de voir que ce... Alors bien sûr, il y a toujours les mecs qui font les 3-8 et les meufs chez Alain Raymond et qui vont boire leur demi au bar en face, le Provence et tout. Voilà, ils sont là, il y en a encore, mais je suis pas sûr que tout le monde habite dans le quartier Saint-Bruno, déjà. Certains habitaient un peu à Fontaine, il y a une grosse communauté italienne, et les ouvriers italiens qui ont bossé dans tout ce qui était les tanneries aussi et tout à l'époque, qui habitent beaucoup encore sur Fontaine où moi je vis. Des usines sur Fontaine, il y en a plus trop non plus. Et je reviens à ce reliquat d'usine Raymond en plein cœur de Saint-Bruno. C'est intéressant de voir comment ce truc-là aussi se transforme là en ce moment. C'est-à-dire que ils ont du coup, ils avaient des gros ateliers qu'ils ont rasés à cet endroit-là, dans le quartier Saint-Bruno qui est en face d'embourgeoisement très très, enfin c'est ça y va. Là. Ils rasent leurs ateliers, ils sont en train de faire monter des tours avec des appartes très très chers pour loger très très clairement en priorité leurs cadres, en fait, les cadres de l'entreprise, quoi. Je sais plus à combien de centaines d'euros du mètre carré on est, mais c'est largement plus élevé que ce qui se pratique ailleurs dans le quartier, donc ça monte tranquillement. Et comme il y a un peu de la contestation, ils sont sur une guerre d'image aussi. Ces industriels-là sont sur une guerre d'image dans le quartier. Et par exemple, il y a à Grenoble un festival de street art. Donc on paye des artistes, des graffeurs et des graffeuses pour peindre des fresques et d'autres trucs dans la ville, quoi. C'est le festival de street art à Grenoble, il a pris racine dans un quartier de Grenoble qui s'appelle Championnet, qui est un quartier très gentrifié. Un ami punk, moi, qui est en Suisse maintenant, me disait, mais comment ça, le quartier Championnet, c'est des galeries d'artistes et des loyers très chers, mais en fait c'est là que les punks ils rincent leurs seringues dans la fontaine et tout. Lui, il avait souvenir des années 80, et du coup cette époque elle est révolue. Tout ça pour dire que le festival de street art, il est parti de ce quartier-là, et hop là, il est arrivé jusqu'à Saint-Bruno cette année-là. Et que fait du coup l'entreprise Raymond très concrètement pour poser une ambiance créative en fait, et aussi redorer son image et faire de ce quartier un quartier attractif? Il paye des gens pour peindre les immenses façades en fait des bâtiments qu'il possède là. Donc il y a des types issus de la culture graffiti qui sont payés par cette boîte privée pour redorer l'image en fait du groupe industriel et passer bien en fait dans le quartier. Et effectivement, quand on passe devant, plein de gens s'arrêtent, prennent en photo le truc et tout, et la petite plaque qui dit on remercie. Bien sûr, c'est Raymond qui a payé ce truc, et les commerçants là du quartier qui ont aussi pour intérêt très concrètement économique que ce quartier-là se développe économiquement, quoi. Ils sont cités là sur ces fresques et tout. Donc bien évidemment, elles sont. Il y a d'autres tags qui viennent sur les graffitis dire un peu ce qu'on peut penser de tout ça, mais c'était intéressant parce que le gars qui a lancé ce festival de street art à Grenoble, lui, pour dire qu'il était hyper content que le festival de street art s'étende dans toute l'agglomération parce que ça allait vraiment faire un truc sympa et que d'ailleurs c'est très largement partagé à Grenoble. La plupart des gens à qui vous allez parler trouvent c'est joli, c'est bien, c'est sympa. Enfin, c'est comme la tolérance ou la créativité, quoi. Enfin, ça va paraître assez difficile de critiquer des gens qui font une jolie fresque sur un mur. Donc lui, pour affirmer le fait qu'il était content que ce festival de street art arrive jusqu'à Saint-Bruno, il disait, il a déclaré dans le journal, c'est vraiment bien qu'on aille sur cette partie-là du cours Beria, qui est le cours qui coupe le quartier Saint-Bruno en deux et qui va jusqu'au Drac et à Fontaine, parce que c'était vraiment un endroit qui était un peu mort et où il se passait pas grand-chose. Donc lui, il habite pas là. On l'avait jamais vu traîner dans le coin trop avant qu'il fasse son festival de street art. C'est un des endroits les plus vivants de la ville, en fait, ce cours Beria, quoi. Enfin, y a des gens qui sont là tout le temps dans la rue. Il y a des commerces de plein de communautés différentes dans le monde et tout. Et lui, il arrive avec son festival de street art et il nous dit que c'est bien parce qu'en fait, il s'y passe rien à cet endroit, quoi. Et je trouve ça hyper parlant, en fait, de comment là, on a un exemple très concret de comment ce truc de ville créative, blam, il arrive d'au-dessus. Et il vient, c'est le couvercle en fait qui vient sur un endroit où on nous explique qu'il s'y passe rien, ce qui est manifestement faux, pour faire quelque chose de sympa. Et du coup, voilà. J'ai complètement dévié de ta question.
En parlant de tolérance,
oui.
Je crois qu'il y a un des graphes qui a été supprimé sur. C'était une femme, peut-être Marianne, avec le 49.3. Mmh. Qui avait été supprimé, ça faisait partie de ce festival.
Ouais.
Donc c'est la tolérance jusqu'à où c'était, t'as passé par des CRS, je crois.
Ouais, c'est ça. Et, alors effectivement, c'est intéressant aussi cet exemple. Dans le cadre de ce festival de street art, il y a un artiste qui s'appelle Goin, qui fait des grands pochoirs un peu. Et qui est sur des sujets un peu politiques, sociaux, quoi. Il représente des choses, voilà. Donc après, il fait partie de ces gens qui n'ont pas de problème à se faire payer par des industriels ou des gens qui envoient la police sur d'autres gens pour dénoncer les violences policières. Donc ça, après, c'est un autre débat. Mais toujours est-il qu'il avait peint, effectivement, devant la gare de Grenoble, une fresque représentant Marianne en train de se faire matraquer par des CRS. On était en plein mouvement, je crois que c'était la loi travail. Les gens se faisaient effectivement tabasser dans la rue. Le lendemain où lui fait sa fresque dans un cadre légal, hein, c'est le Grenoble Street Art Fest, la ville est, je veux dire, le paye pour faire ce truc-là. Il y a une patrouille de police qui passe en fait devant cette fresque et qui s'arrête. Et donc, vous savez comment ça marche chez les policiers. Il y a des chefs. Du coup, allô chef. Du coup, le chef il appelle le surchef. Le surchef appelle le VAP. Hop, préfet quoi. Préfet qui dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi en fait. C'est quoi votre qu'est-ce que c'est que cette fresque les syndicats de police qui montent au créneau en fait et qui parce qu'ils sont comme chacun sait les policiers sont mal aimés. On se demande pourquoi. Et du coup, en fait, c'est le coup de la tolérance a été vraiment... C'est la carte qui a été jouée, en fait, par la mairie à ce moment-là. Parce que du coup, il y a eu un petit jeu politicien entre la mairie de gauche et Colo. Du coup, toute la droite est montée au créneau pour défendre la police. Et le maire de Grenoble qui dit « Mais... quel est votre problème? Il y a quelque chose qui s'appelle la liberté d'expression. Les artistes ont le droit de s'exprimer. Il n'y a aucun problème là-dedans et tout ça. » Pendant, bien sûr, que ce même bonhomme envoyait les flics sur les gens qui s'exprimaient par ailleurs d'une autre manière. Moins payés, moins... Voilà. Donc il y a eu tout un jeu, en fait, effectivement, autour de cette fresque-là et de l'idée de tolérance, en fait. C'est, effectivement, c'est cool, en fait. On peut même dénoncer les violences policières dans ce cadre-là. Et toutes les œuvres un peu qui vont avoir un peu un message politique qui sont réalisées dans le cadre de ce street art festival, elles sont toutes faites sur des bâtiments qui sont démolis 3 semaines ou 1 mois après. Le bâtiment sur lequel a été fait le truc devant la gare de Grenoble, là où il y a un passage de ouf en fait, évidemment que Piolle, le maire de Grenoble, il est monté au créneau pour défendre la liberté d'expression parce qu'il savait que 2 semaines après, il y avait les pelleteuses qui passaient et que le truc il n'existait plus et que plus personne le verrait et que ça pouvait créer une petite polémique sympa pour se poser en héros de la liberté d'expression.
Surtout que quelques semaines après, il passait à la télé pour demander plus de renforcement de la police sur Grenoble.
Ouais, c'est ça.
Il passait au niveau national.
Ouais, c'est ça. Ah bah après, on a tous nos contradictions, mais...
ouais. À propos de contradictions...
Oui.
Embêter.
Non, mais il faut m'embêter.
Tu sais, tu serais au 15e siècle.
Je fais un effort d'imagination.
Vas-y, tu y es.
Bah, j'y suis, là, bien.
Tu y es. Et donc, c'est le début du capitalisme. Ouais. Et donc, il y a l'invention de l'imprimerie.
Ouais.
La mécanique, on peut dire, des choses comme ça.
Ouais.
Est-ce que tu t'es posé la question que ton analyse sur les imprimantes 3D, aujourd'hui, sur les nanotechnologies, c'est l'équivalent de ces inventions il y a 500 ans, et donc c'est une vraie révolution, effectivement, telle que peut l'annoncer certains théoriciens. Non tu...
Oui, super, très bonne question. Effectivement, tous les gens qui font ces trucs d'imprimantes 3D, etc. Alors, les nanotechnologies, ils font moins référence à l'invention de l'imprimerie, parce que je pense qu'ils s'en foutent un peu, mais... effectivement, tous les gens qui sont dans les Fab Labs et tout ça, c'est un trait de communication récurrent de dire on est au niveau de l'arrivée de l'imprimerie au 15e siècle. Donc, tu vois, vraiment, c'est en plus un argument qui est évident.
Je veux dire, l'analogie est...
Un argument qui
quand
est...
Quand tu sais qu'aujourd'hui, on peut, avec une imprimante 3D, faire des prothèses pour 100 fois moins cher, voire 1000 fois moins cher que ce qui se fait actuellement dans le marché,
ouais.
Et que actuellement en Afrique, par exemple, ou dans les pays, disons, qui n'ont pas les moyens, sécurité sociale et autres, tels qu'on a chez nous, peuvent se permettre maintenant d'avoir des prothèses plus facilement.
Bon, l'imprimante, elle n'est pas vraiment accessible à tout le monde, pareil, un peu en 3D.
Pardon ?
Moi, je ne pense pas du tout qu'on puisse faire le parallèle avec l'invention de l'imprimerie, avec les imprimantes 3D. Déjà, les conditions n'ont absolument rien à voir avec les questions historiques, mais en plus, l'imprimante 3D, encore faut-il se la procurer. Donc, ça repose exactement la même question que... Sinon, ça ferait longtemps qu'il y en aurait plein en Afrique et que tout serait réglé, et ce n'est pas vraiment le cas. Donc, ça montre bien que... Et puis après, il y a toute la question des matériaux pour le produire, etc. Et encore une autre question, mais... Enfin, je pense que c'est une fausse bonne idée, enfin, c'est une fausse solution à résoudre le problème.
Dans 5 ans, disons.
Bah, en tout cas, ce que tu dis là, en fait, c'est effectivement des arguments qui sont utilisés par les gens qui développent ces choses-là, à savoir, on a affaire à une révolution parce que les gens vont se réapproprier massivement les moyens de production. Bon, ça reste encore à discuter parce que il y a des choses qu'on va pas pouvoir se réapproprier et notamment une des critiques qu'on peut faire à ces histoires d'imprimantes 3D. En fait, toutes ces histoires de Fab Lab et d'artisanat 2.0, en fait, sans l'informatique et sans Internet, ça ne marche pas. Et informatique et l'Internet, je crois bien que ça marche avec le capitalisme. En tout cas, je crois que sans entreprises industrielles très lourdes...
Qu'est-ce qui ne marche pas sans le capitalisme ?
Qu'est-ce qui marche pas sans le capitalisme ? Bah, y a plein de choses qui marchent sans capitalisme, en tout cas. Mais tout ça pour dire que... Le parallèle avec l'imprimerie, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de discuter les buts, mais d'aller les discuter en profondeur, quoi. Le coup de dire, grâce aux imprimantes 3D, on fait des prothèses pour les gens qui n'ont pas les moyens de se les payer. Il y a effectivement des prothèses qui sont sorties des imprimantes 3D pour beaucoup moins cher, comme tu le dis. Cet argument-là que moi je qualifierais de rhétorique, je dis que c'est de la rhétorique parce qu'à Grenoble, on connaît très très bien l'argument de la santé pour faire passer des productions qui par ailleurs sont très largement nocives, en fait, il est hyper utilisé. À Minatech, en fait, ce qui est tout le temps mis en avant à Minatech et à Clinatech, qui est la clinique du cerveau sur laquelle on travaille sur les implants neuronaux qui se trouve à 100 mètres de Minatech, ce qui sort massivement de la communication officielle de ces trucs-là, c'est grâce à Minatech, on va guérir le cancer. Parce qu'il y a des gens qui bossent sur des trucs, des nanotechnologies pour aller guérir. Hein. Grâce à Clinatech, on va guérir Parkinson. Donc effectivement, ça coupe. C'est une façon aussi de couper toute critique. Sauf que la part en fait qui est vraiment consacrée à améliorer la vie des gens dans ce qui sort de ces endroits-là, elle est minime. Et ce qu'on voit surtout, c'est que c'est l'armée qui a un droit de préemption sur tout ce qui sort de Minatech et que la plupart des trucs, ça sert à produire des gadgets inutiles, qui polluent encore plus. Et que par ailleurs, plutôt que de se poser la question sur comment on peut... Enfin bon, vaste débat, hein, mais plutôt que de se poser la question sur comment on peut guérir le cancer grâce à Minatech, ou comment on peut remplacer les jambes de gens grâce aux imprimantes 3D, on pourrait se demander pourquoi il y a des cancers, entre autres à cause de Minatech, et pourquoi il y a des gens qui perdent des jambes, entre autres à cause des entreprises qui fabriquent les imprimantes 3D et qui sont directement liées en fait au développement du capitalisme et des gros groupes industriels en fait. Du coup, parfois, je me demande si on prend pas les choses un peu à l'envers.
On peut. Les imprimantes 3D servent à faire des revolvers de très haut niveau actuellement. Ils sont en train de discuter aux États-Unis une loi pour autoriser les revolvers fabriqués par imprimante 3D. Enfin.
Oui, alors du coup, après, ce qui est intéressant, c'est que... Moi, ça va peut-être évoluer dans les prochaines années, puisqu'il y a effectivement, a priori, un paquet de blé qui est mis là-dessus, sur mettre des imprimantes 3D partout, et... moi je suis bibliothécaire, a priori l'avenir des bibliothèques c'est de devenir des Fab Labs. Donc voilà. Il y a le paquet qui est mis sur ça, mais actuellement j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite différence, voire une différence assez large entre ce qui nous est présenté comme pouvant émaner de ces endroits-là et ce qui s'y fait effectivement concrètement, quoi. Au Fab Lab, ils ont de la casemate, ils n'ont pas fait beaucoup de prothèses en fait pour remplacer les jambes des gens, mais par contre des maîtres Yoda en plastique, ils en ont fait plein par contre, quoi. Et du coup,
c'est vachement bien, quoi.
Et maître Yoda pourra peut-être sauver l'Afrique, mais peut-être pas, quoi. Probablement pas en figurine en plastique, du coup. Et après, ce que disait Anne, effectivement, c'est que c'est un peu prendre le problème à l'envers, puisque ces outils-là, en fait, ils constituent pas une réappropriation des moyens de production, puisqu'en fait, on n'est pas du tout autonome avec une imprimante 3D, c'est pas vrai. Puisqu'en fait, on est censé être dans une société d'échange libre des plans, où tout le monde peut les piquer des trucs et tout, mais en fait, si on débranche la prise, ça marche plus, par exemple, quoi. Ce qui serait pas une mauvaise idée, parfois, mais...
Euh, En fait, je veux dire que ton bouquin, enfin, moi j'ai fait la préface, hein, je le dis quand même, et je trouve que ton bouquin il est vachement bien parce qu'il articule, enfin, il parle de la ville, mais en fait, c'est pas juste un bouquin sur la ville, il articule avec les transformations du capitalisme aujourd'hui et notamment tout le discours qu'on entend aussi là du progrès technique qui pourrait nous sauver et les questions des rapports de classe. Et la question de la fabrique du consentement. Et je pense que vraiment, ton livre, il est au cœur de ça, de comment on fabrique du consentement, comment on fabrique de la dépolitisation grâce à, on met en avant la créativité, on met en avant le progrès technique, on met en avant plein de choses qui désamorcent complètement, comme tu viens de le dire, ou la santé, alors qu'en fait, c'est des usages militaires, principalement les nanotechnologies, ça tue d'abord des gens, en fait, avant d'en soigner peut-être quelques-uns. Et donc, je pense qu'on est au cœur enfin, c'est vraiment ça la question, et c'est même de montrer comment la ville elle-même devient un outil de fabrique du consentement. On se sert de tout, quoi. Et un outil de propagande aussi pour ce discours du progrès technique qui va régler les problèmes d'environnement, tout régler, machin. Et je pense qu'on est au cœur de ça, et du coup, moi, j'aurais une question à te poser. C'est un peu... En fait, qu'est-ce que ça nous oblige à penser en termes de résistance ? Parce que ça, c'est hyper dur de résister à ça. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on galère. Enfin, c'est parce que s'il y a une minorité de gens qui sont conscients et qui essaient de faire des trucs, la majorité des gens sont, c'est pas qu'ils adhèrent vraiment au truc, mais c'est qu'ils sont, ils sont bercés par ces illusions-là et ça marche assez bien et ça a l'air de se tenir cette affaire. C'est bon, il y a le progrès, ça va nous sauver. Et en plus, on est tolérant avec les gays, c'est quand même formidable. Bon. Donc, ce truc-là. C'est difficile de le contester. Et tu vois, je pensais juste à ça. Il y a un moment, il y a des dessins dans le livre. Il y a aussi des dessins. Et il y a un truc comme ça où il y a un tag « Ingénieur, cassez-vous ». Et puis, un mec et une nana qui disent « Ah, mais c'est super, ce truc de street art. Je vais le mettre sur Instagram. » Et ça. Bon. Et effectivement, c'est une vraie question parce qu'il y a pas mal d'éléments de résistance qui sont assez anciens sur écrire sur les murs ou machin. J'ai l'impression qu'ils... Enfin, moi... Il y a des moments où je me dis que c'est un peu vain. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faudrait plus jamais le faire, mais qu'en tout cas, c'est complètement passé dans le paysage. Alors, soit les gens ne le voient même plus, soit effectivement, il y en a qui vont se dire « Ah, c'est un truc créatif !» Enfin, qui vont croire, qui vont même pas voir que c'est un message politique. Bon, ça, c'est sur le truc d'écrire sur des murs, c'est pas le truc fondamental. Mais en gros, qu'est-ce que ça nous impose? Qu'est-ce que tu en tires, toi aussi, comme réflexion, après toute cette analyse de comment... Alors, je sais que tu ne vas pas avoir une solution, mais qu'est-ce qu'il faudrait changer dans certains trucs qu'on a fait ou qu'on fait pour répondre à ça, enfin, sachant qu'il y a certaines méthodes qu'on a fait avant qui ne marchent pas ou qui sont noyées et même décrédibilisées par le fait que « Ah bah oui, vous squattez, oui, mais à la place, on va faire une maison de retraite ou un machin social, attendez. » Voilà. Donc on est vachement contré et on est vachement récupéré dans plein de trucs. Alors comment on fait pour... comment on fait ? Je ne te demande pas la solution, mais est-ce qu'il y a certains éléments auxquels tu as pensé que ça te fait avancer dans ta réflexion sur des stratégies politiques ou des modes d'action ? Voilà.
C'est sûr qu'un truc qui marche pas, c'est de se placer au-dessus de la mêlée. Ça, on a bien vu que ça marchait pas, ou de s'isoler, ou d'avancer comme une minorité éclairée, ou d'être un milieu squat hyper radical et de pas être capable de parler avec les gens, avec les voisins, ou ce genre de choses, quoi. Des choses que moi j'ai connues avec les gens avec qui j'habitais et tout, mais bon, ça reste marginal, enfin, comme problème. Alors, c'est sûr qu'à Grenoble, en fait, sur la critique du progrès technique et technologique, on est un peu au cœur du problème, enfin, un des cœurs du problème, quoi. Et que je décrivais tout à l'heure cet esprit de Grenoble, en fait, c'est un rouleau compresseur en fait dans cette ville de considérer que c'est forcément positif en fait pour la simple et bonne raison que les trois quarts de la ville en vit d'une manière parfois assez propre quand on est ingénieur payé pour un labo de recherche, mais de manière un peu moins propre quand on est payé pour aller récurer leurs chiottes. Mais toujours est-il que en fait on y est lié en fait d'une manière ou d'une autre, d'une manière plus ou moins choisie, etc. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident d'aller questionner ça, surtout que ça, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ce que ça impliquerait pour nous concrètement, ça veut dire j'ai pas besoin forcément du dernier iPhone, de tous les gadgets qui sont en train de me sortir de Minatech, enfin de se poser des questions, de la question de nos besoins en fait, déjà premièrement. Et de se les poser nous pas individuellement, parce que moi je trouve pas ça très intéressant en fait. Enfin, c'est bien tout le les techniques employées par cette mairie écolo, notamment de considérer les problèmes de l'industrie et de l'environnement d'un point de vue purement individuel. Ma fille, elle revient de l'école maternelle, elle me fait tout un laïus sur le tri sélectif et que c'est hyper important, sinon les tortues vont s'étouffer et mourir. Alors oui, bien sûr, mais voilà, j'ai envie de lui dire, mais non, en fait, il y a un réacteur nucléaire à 200 mètres, en fait, chérie, en fait. C'est... Donc effectivement, on va essayer de mettre les papiers, pas n'importe où et tout, mais enfin, faudra que collectivement, on aille fermer ce truc-là, enfin voilà. Je pense qu'il faut qu'on mette en place... En fait... Il n'y a pas de recette miracle, hein. Il y a des trucs qui sont tentés depuis des années, mais en fait, tout ça, c'est des rapports de force, et dans les rapports de force, il faut essayer d'être intelligent pour peser, quoi. Et peser, ça veut dire construire des mouvements collectifs, quoi. Après, la ligne de pièces et main-d'œuvre qui ont été... qui sont venus chercher, en fait, à l'époque, les gens du milieu militant, parce qu'eux n'avaient pas d'assises, en fait. Ils sont venus chercher les gens du milieu militant qui leur ont servi la soupe, en fait, dans le sens où c'est les gens qui leur ont organisé des réunions publiques. Il y a eu tout un mouvement de réunions publiques à travers toute la France pour appeler une manifestation contre l'ouverture de Minatec, le jour de l'inauguration. Il y a eu 1000 personnes à cette manif, on s'est fait cartonner par les CRS comme de bonne aloi, mais toujours est-il que ce qui était le plus important, finalement, c'est tout le travail qui avait été fait avant, et qu'en fait, c'était la première fois qu'un centre de recherche scientifique, en Europe, je crois, à ma connaissance, était critiqué le jour de son ouverture. Donc rien que ça, en fait, c'était déjà, je trouvais positif, parce que ça posait cette question-là, en fait, de qui a décidé qu'on mette autant de blé dans ce truc-là, pour faire quoi ? Finalement, le but de tout ça, c'était ça, hein, c'était pas... On savait pertinemment qu'on n'irait pas fermer Minatec ce jour-là, mais... bon, voilà, eux, ces dernières années, ils ont changé de stratégie. Ils sont dans la stratégie, de toute façon, on a raison, l'histoire jugera. Ceux qui sont trop cons pour nous comprendre sont trop cons pour nous comprendre. Donc, voilà, c'est sûr que quand ils n'ont plus voilà. Moi, je crois que les outils qui ne marchent pas tout le temps, mais qu'on ne peut pas se payer le luxe de ne pas employer, c'est faire des réunions publiques, de l'information, aller au-devant des gens honnêtement, quoi. Enfin, pas... Enfin, faut dire qui on est, ce qu'on pense, quoi. C'est là et là, on discute, quoi. C'est pas un problème, en fait. Enfin, je trouve que c'est pas un problème de dire aux gens, les parents avec qui je traîne au parc après l'école, de dire, bah oui, moi je suis anarchiste. Ça veut dire tel truc. Mais c'est sûr que c'est pas toujours fastoche, quoi. Et vraiment à Grenoble, ouais, roule compresseur, quoi. Enfin. Puis ça, quand je dis ben, j'ai fait ça, point, point, point. Enfin, oui, non, bien sûr, il y a un cercle de gens qui me comprennent, quoi. Mais alors, ouais, du coup, pour répondre à ta question, ouais, à la fois, ça nous. Ça nous impose de se poser des questions individuelles sur de quoi on a besoin. De porter collectivement des choses, une critique, mais de manière simple et honnête. Hein, c'est pas forcément, faut pas écrire des gros livres ou je sais pas quoi. En fait, faut juste aller au devant des gens, continuer à discuter et tout ça, quoi. Et moi, j'ai pas d'autre. À part qu'il y a des gens qui en parallèle et c'est un peu la fin du bouquin, quoi. Parce que moi, je me demande si du coup est-ce qu'on décide de tous crever en ville à cause des pics de pollution qui atteignent un mois l'hiver dernier à Grenoble, ou est-ce qu'on se décide d'aller faire pousser nos légumes à la campagne, par exemple, quoi ? Ou effectivement, c'est un moyen de reprendre un peu d'autonomie et tout. Bon, ben voilà, il y a des choses qui doivent forcément aller ensemble, c'est pas un ou l'un ou l'autre. Et puis surtout, il y a le risque d'emporter un petit peu avec nous la métropole, quoi. Et que du coup, ben, tout ça finisse juste par s'étendre. Je crois qu'il faut surtout... Un des dessins, c'est Colin Picot qui nous a fait l'amitié d'illustrer ce bouquin. Un des derniers dessins, en fait, c'est juste, on se demande si la question, c'est pas où on habite, mais comment, quoi. Et c'est un peu tout ça que j'essaye de dire, en fait. Bien sûr que la question, c'est où on habite et qu'est-ce qui s'y passe. Mais là, moi, j'accorde autant d'importance à quelle attitude j'ai avec les gens avec qui j'habite à cet endroit-là et qu'est-ce qu'on peut créer ensemble ou pas, quoi. Mais c'est hyper bien que tu reparles de rapports de classe, en fait, parce qu'il y a des trucs très concrets. Moi, j'habite du coup dans la banlieue de Fontaine. Si je discute avec les gens et qu'on essaye de discuter ensemble de c'est quoi notre vie et qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on peut y faire, moi, là, il y a un papa qui vient zoner au parc, son boulot, c'est désamianter, en fait, quoi. Il y a un papa, il est ingénieur à Minatec. Et on a nos enfants au même endroit. Et l'autre papa, bah, il est payé à nettoyer les merdes que le premier, en fait, il invente ou il est amené à inventer ou que ses prédécesseurs ont inventé avec lui. Enfin, voilà. Donc, c'est ça aussi. Enfin, c'est un peu ce truc du bouquin aussi, là. C'est que, bien sûr, on a tous nos trucs de qu'est-ce qu'on fait au point de vue militant et tout. Mais moi, j'aime bien aussi voir comment je fais dans la discussion, là, si je suis avec ces deux papas, là, tu sais, genre... Mathieu, ingénieur, je te présente machin qui désamiante en fait l'endroit où tu bosses et qui est déjà malade en fait quoi. Alors je suis plutôt du côté de Julien qui désamiante et pas vraiment de Mathieu qui amiante. Je veux dire que effectivement il y a des rapports de classe et que des fois on peut se balader entre les classes facilement, mais que des fois aussi on vient d'une certaine classe et que moi j'oublie pas en fait ce que mes grands-parents ils m'ont appris, ce que voilà ces trucs-là quoi.
Ce qui rend les choses un peu compliquées parfois, c'est comment les démarches de résistance collective sont diluées dans toute l'idéologie citoyenniste que tu évoques un peu par touche aussi. Et pour justement comment aller au-devant aussi des gens, comment nouer, comment tisser. Enfin voilà, il y a quand même un discours dominant de résistance qui n'est pas toujours au service de vrais processus à la base, etc. C'est un petit peu, ce que tu... Dans ton bouquin, quand tu évoques le mode de vie de ces ingénieurs dans ce quartier, qui vont au boulot à vélo, avec leur petit panier de légumes, etc. Enfin, c'est... Ça fait partie, je pense, des écueils.
Ouais, c'est sûr que la conflictualité, elle est masquée, quoi. Ou transposée ailleurs... plus loin dans la ville. Il y a des endroits où la police est plus active qu'ailleurs, bien sûr. Enfin voilà, ça se traduit très concrètement par de plein de manières différentes, mais alors là sur toute l'idéologie citoyenniste et tout. Alors là, à Grenoble avec une mairie écolo et les appels à projets citoyens, des comités d'habitants et tout, voilà, ils ont mis en place un truc si on vous donne 15 000 euros, qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre ville? Donc il y a plein de gens, des individus, des assos qui se ruent sur ce truc en fait. Et voilà, le premier truc qui a été fait, c'est des chiottes sèches dans le parc Marliave, qui est le parc de Saint-Bruno, où vont plutôt les classes blanches à fort capital culturel. Et voilà, le premier truc qui a été fait, c'est le premier appel à projet qu'ils ont choisi comme ça, miraculeusement, c'était ouais, des chiottes sèches dans ce machin-là en fait. Bon,
c'est une bonne, les chiottes sèches, c'est pas mal.
Bon, qui ont été rapidement inutilisables, mais... Mais oui, il y a tout ça. Il y a enlever la part de conflit, enlever la part de... Et du coup, une des choses aussi qu'on peut faire, c'est remettre ça sous le nez des gens. Moi, je trouve... Enfin, c'est hyper important, en fait, de dire... En fait, non, ici, c'est pas les bisounours. C'est pas qu'on va travailler en vélo. C'est pas qu'on mange des légumes bio, c'est cool. Je vais travailler en vélo. Enfin, non, je vais en mobylette maintenant, mais... Je veux dire, c'est pas se mettre en dehors non plus, hein. Mais c'est aussi remettre sous le nez des gens le caca que ça implique nos modes de vie, quoi. Et en s'intégrant dedans, bien sûr, quoi. Je sais pas, quand... Enfin, là... Enfin, je sais pas si ça vous est arrivé parfois de vivre un moment, en fait, où on fait de la politique ensemble dans l'espace public, et puis il y a une situation de répression... Et puis, des fois, ça arrive que c'est un samedi après-midi dans le centre-ville, et puis on se fait cartonner dans un coin, et puis en fait, la vie suit son cours, quoi. Et moi, c'est des moments typiquement où j'ai envie d'aller voir chaque personne et de leur dire, en fait, là, c'est ça qui se passe. Parce que je crois que pour plein de gens, l'anesthésie, elle marche assez bien aussi, quoi. Et que faire de l'information, parce que ça peut aussi être un peu présenté comme ça, c'est quand même un peu aussi le truc de base, quoi. De pas considérer que tout le monde est au courant de tout et qu'on se comprend bien entre nous parce qu'on sait bien tous et toutes de quoi on parle, mais de redire les choses simplement, quoi. Donc ça, c'est vraiment une autre question. Après, ça, c'est des questions de stratégie sur comment on communique sur tout ça, quoi. Comment lutter contre... Qu'est-ce que ça veut dire lutter contre la ville créative, quoi? Quel mot on emploie? Comment on en parle aux gens, tout. Et c'est important, parce que si on est dans un jargon militant... pas persuadé que ça cas pour avoir essayé des trucs un certain nombre d'années, et puis nous être vautrés sur des trucs, c'est pas forcément ça qui est le plus efficace, quoi. Mais je crois que typiquement sur comment une ville ou une aire géographique ou un monde qui se transforme, ça paraît pas violent à des gens, et comment c'est important de rappeler que ça l'est, et parce que en fait si t'as conscience que c'est violent, tu peux te dire ah oui, du coup faut peut-être faire quelque chose si ça l'est à ce moment-là. C'est hyper important, quoi. Enfin, j'ai un exemple en tête. En fait, il y a plusieurs mois, j'ai emmené ma fille qui a 4 ans. Elle vient en manif avec moi depuis qu'elle a 3 mois, je crois. Et il y avait un colloque sur le campus universitaire, donc paf, créativité, campus, innovation, machin et tout, sur l'Europe et ses frontières. Et il y avait des gens de Frontex, en fait, qui étaient là pour parler à ce truc. Voilà, en fait, des gens qui viennent parler dans un contexte un peu intellectuel, un campus universitaire, mais qui ont des implications très concrètes sur comment se transforme, peut-être pas l'endroit précis où on est en train de parler, mais enfin, pas très loin autour. Et comment ces gens-là sont des assassins, en fait, enfin, pour le dire très clairement, quoi. Bon. C'est une entrée, là, je veux dire, c'est quand même. C'est concret, en fait, quoi. Voilà, je veux dire, c'est facile de dire ça, on peut le critiquer. Donc, j'étais allé avec ma fille à ce truc-là. Et c'était vraiment une erreur, parce qu'on avait hésité entre ça et aller ramasser des branches mangées par les castors au bord du drac. Et je lui ai dit, est-ce que tu préfères aller. Et elle m'avait dit non, je veux bien aller au rassemblement, parce qu'elle savait qu'on y verrait des potes, quoi. Donc j'avais dit d'accord, et je lui avais expliqué pourquoi on allait à ce truc-là. Alors, elle a 4 ans, donc bien sûr, voilà, il faut un peu choisir ses mots comme avec tout le monde, mais peut-être encore plus avec une personne de 4 ans. Et en fait, comment ces trucs-là, encore une fois, hein, comment ces trucs-là qui paraissent être juste de l'ordre de l'idée, on est dans un colloque universitaire, c'est sympa, on est dans une ville tolérante, on est entre gens qui échangent tranquillement et tout, comment ça peut se traduire violemment? Il y a 100 personnes qui se rassemblent, les gens veulent essayer de commencer le colloque, il y a des gens qui rentrent dans la salle, une cinquantaine, la police qui était présente était repartie. Du coup, des gens s'invitent dans la salle parmi les gens qui critiquaient ce truc-là pour dire bah, merci, au revoir, vous pouvez rentrer chez vous, c'est pas la peine de faire votre colloque pro-Frontex en fait, ici. Et les policiers reviennent en trombe, matraquent les gens et gazent les gens à l'intérieur de la salle. Plusieurs amis ont le crâne ouvert en fait. Enfin, les gens se font tabasser en fait dans un espace assez restreint. Et moi, je suis avec ma fille de 4 ans, qui est la seule enfant, en fait, du truc. Et moi, je suis avec ma fille de 4 ans dans les bras, là. Et moi, j'étais resté à l'extérieur, parce que j'estimais que c'était trop dangereux de rentrer dans la salle avec elle. Et il y a un policier qui nous a mis en joue avec son flashball, à 2-3 mètres. Il était comme là, en fait, tu vois, comme toi et moi, en fait. Et qui nous visait au niveau de la tête, quoi. Et moi, j'avais ma fille dans les bras. Il pouvait pas ne pas avoir vu que j'avais une enfant de 4 ans, en fait, dans les bras. C'était pas possible. Il était à cette distance-là, quoi. Je vous raconte pas ça pour le côté tragique, en fait, du truc, mais juste pour raccrocher à ce qu'on disait avant. Que bon, évidemment, j'ai été hyper énervé de ce moment-là, hyper touché en tant que papa, hyper révolté en tant qu'anarchiste, de se dire, en fait. Ok, il y a des gens en uniforme qui peuvent braquer une petite fille de 4 ans, en fait. Donc on en est encore là, c'est pas un truc du 18e siècle, en fait, c'est ça, c'est maintenant, aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que tous les gens, systématiquement, que j'ai croisés dans la semaine, les personnes qui s'occupaient d'elle à la crèche, les parents de l'école, mes collègues de boulot, tout le monde, j'ai raconté ce truc-là à tout le monde, en fait. Parce que, en fait, sinon ils savent pas, en fait. Les classes moyennes, blanches, en fait. Les agissements de la police, la police, c'est le dernier étage du développement de la ville créative, mais c'est le plus, c'est celui qui fait le plus mal, hein. Et c'est celui que se prennent la plupart des gens. Il y a toute une partie de la population, en fait, qui y sera jamais confrontée. Mes parents, en fait, j'ai mis un petit moment à raconter ça à mes parents, parce que, pour tout un tas de raisons. Mais ouais, j'estimais qu'en fait, là, j'avais un devoir, en fait. Bon, aussi parce que j'étais super énervé et qu'il fallait que je le raconte. Mais il y avait un devoir d'information, en fait, de dire ce monde-là, ce mode de vie est violent, il faut que vous le sachiez, tel truc, hyper concrètement, là, à côté de chez vous. Et ce bouquin, c'est une tentative plus gentille parce que c'est pas sur des trucs aussi violents, encore qu'il y a quelques exemples dans le livre. Mais c'est ça aussi. Puis aussi, tu demandais tout à l'heure le parcours. Enfin, moi, je trouve qu'on écrit toujours pour comprendre, en fait. Enfin, qu'écrire, ça aide à comprendre. Et que du coup, c'est à la fois ça. Et puis tu fais ça, et puis tu vas voir les gens, en fait, en disant, ben, moi, là, mon niveau, j'ai compris ça. Et vous, qu'est-ce qu'on... Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Mais effectivement, ça fait partie des trucs de base de dire, quoi. Et donc, après, on a fait des séances de psy avec ma fille.
Tu veux... Moi, il y a juste un truc. Parce que tu disais à un moment, l'entreprise, elle cherche des lieux cool, etc. Moi, je suis pas du tout. Je suis de Lille. Donc, côté culture et tout, c'est la capitale européenne de la culture. Qui était venu, enfin, j'avais l'impression un peu différemment de ce qui était dit sur les entreprises qui vont dans des lieux ouais. Parce qu'ils sont cool. C'était aussi dans le côté comme si l'entreprise elle mutait mais qu'elle cherchait toujours une autre manœuvre. Parce que avant c'était les entreprises textiles qui sont devenues un peu comme Auchan et autres. Et à Lille, c'est même les grands patrons qui ont initié en fait la capitale européenne de la culture en faisant des réunions entre grands patrons pour trouver un moyen. Au début, en fait, ils pensaient qu'ils allaient avoir les Olympiques. Et finalement, ils se sont servis un peu de cette synergie-là. Et ils ont eu la capitale européenne de la culture. On parlait, il y a eu le TGV, etc. Tout un discours politique sur la turbine tertiaire, le fait qu'on allait changer les gens en changeant de secteur. Les gens vont aussi mieux se qualifier ou autre. En fait, je me pose la question aussi dans des quartiers un peu populaires, le côté changement de population qui ne se voit pas forcément. Et je sais pas, en fait, vu que tu parlais un peu de la violence, là, c'était juste une remarque sur aussi dans ces quartiers populaires où il reste des ouvriers. En fait, il n'y a plus d'emploi pour eux, j'ai l'impression, dans le secteur dans lequel ils ont été formés. Dans la région, par exemple, lilloise, dans la métropole lilloise. Et du coup, ils se retrouvent dans d'autres villes de la région. Mais avant, enfin, en tout cas, pour l'expérience que j'avais connue, qui était un voisin, en fait, avant, il y a une grosse souffrance dans ces quartiers populaires qui sont un peu laissés longtemps à l'abandon, un peu comme des entourés de maisons vides ou de dents creuses, comme on appelle. Et ils souffrent d'habiter dans des lieux très, très pourris. Et donc, il y a une violence qui se fait aussi d'être un peu incompréhensible entre des gens qui souffrent et qui sont des ouvriers qui disent « Mais moi, en fait, je paye, parce qu'en plus, c'est très cher pour des trucs enfin, insalubres, en fait, parce que c'est moisi à cause des maisons vides à côté ou à cause d'autre chose. » Et en même temps, après, la mairie, elle arrive en disant « Bah, nous, pas de problème, on va rénover. » Mais à travers ça, il y a un changement de population et ça se voit pas, en fait. Parce que du coup, quand tu passes dans le quartier que tu connais pas, que tu ne le vis pas, en fait, les bâtiments, après, ils sont plus propres, tout est un peu neuf, tu dis, bah, c'est mieux qu'avant, quand même. Sauf que c'est plus les mêmes personnes. Et voilà, c'était juste pour rebondir sur le fait de ce que tu racontais. Effectivement, si on parle pas de ça, de ces choses... Ben, ces lieux, en fait, faits exprès par les institutions, par des grands groupes qui sont insalubres pour mettre les gens plus à mal et pour qu'ils partent, et mettre à la place des gens, des cadres et autres... Là, même à Lille, en ce moment, il y a un squat de personnes exilées qui, dont une entreprise qui était propriétaire des lieux, a coupé l'eau alors qu'elle savait qu'il y avait des gens qui squattaient là. Ce qui est illégal, entre guillemets, mais surtout parce que du coup, ça empirait en termes d'insalubrité. En fait, ça va très loin. Et si on ne communique pas dessus, en fait, effectivement, c'est entre guillemets, c'est pas bien, je sais pas comment dire. Mais du coup, il y a un collectif là-bas qui fait beaucoup d'affichage sur ça, qui essaie en tout cas de parler aussi, par exemple, des personnes exilées, de leurs conditions de vie. Et c'est les premières choses qui sont arrachées par la mairie. C'est les premières... Donc il y a des tags partout aussi, effectivement, de groupes qui sont payés par la mairie pour faire des belles choses. Et par exemple, ce collectif essaie de communiquer là-dessus. Voilà, c'était juste pour dire un peu comment ça se passe à Lille. Mais je ne sais pas comment ça se passe à Toulouse parce que je vis pas. C'était aussi pour lancer. Bon, la plus à la salle, je sais pas si tu avais d'autres réflexions.
Oui, après, tu as raison de dire que. Juste avant que. Que. Lui, c'est un peu Florida et sa bande et ces gens-là qui disent que non, mais maintenant ça s'est inversé, donc il faut être cool pour que les gens viennent. Enfin, ça reste encore à prouver. Et il y a des grosses manœuvres, en fait. Enfin, les capitales européennes de la culture et ce genre de trucs, en fait. C'est pas du tout dans le sens que lui dit, hein. En fait, c'est effectivement les grosses boîtes, en fait, qui c'est les chambres de commerce et d'industrie et tout ça qui sont à la manœuvre sur ces trucs-là, quoi. Nous. La dernière grosse, le dernier gros énorme coup de pelleteuse à Grenoble, c'était les Jeux Olympiques de 68, en fait. Hein. Enfin, très concrètement, hein, comment la ville, elle a changé de fond en comble la dernière fois, c'était ça, quoi. C'était pas les comités de base du PC qui avaient. Encore que. Bon. Mais oui, c'était. Que bien sûr, en fait, les... Et il y a aussi tout un tas. Deux gros groupes qui, quand tu parles de la turbine tertiaire, là, qu'on effectivement assez bien compris qu'ils allaient pouvoir délocaliser leur lieu de production en fait ailleurs dans le monde pour beaucoup moins cher et garder dans les métropoles en fait les centres de recherche et tout ça, et que du coup ils avaient tout intérêt à aller dans le sens de la ville créative, de la tertiarisation et de ce genre de choses en fait. Mais il y a plein d'endroits où ça marche pas, et ça c'est un peu la... Il y a des endroits où ça marche pas, ça. Enfin, c'est ça que je trouve hyper précieux aussi, c'est que on est allé présenter le bouquin à Ivry, par exemple. On est allé présenter le bouquin à Marseille. Tu vois qu'il y a des fois, il y a des trucs qui tombent d'en haut, en fait, comme ça, et qui marchent pas. Et ça, bah, c'est toujours bien. Enfin,
il y a un exemple fameux, c'est l'Agnon, ouais. Les télécommunications en France, pour lancer des fibres, qui est actuellement partout. Donc, ils ont ces CNET, centre de recherche en technologie, bon, qui a délocalisé tout le centre de recherche et de production à Lannion. Donc ça leur a pas coûté très cher. Il y avait l'antenne de Plumeur-Baudou à côté, donc ils recevaient les signaux à l'époque par satellite, enfin les premiers télécommunications par satellite en France. Ils ont délocalisé tout le centre de recherche à Lannion. Donc de Paris à Bretagne, et donc il y avait un petit aérodrome, et donc les ingénieurs qui, au bout de plusieurs années, qui ne voulaient pas vraiment s'implanter dans cette toute petite ville de province, faisaient l'aller-retour dans la journée, en avion, par tous les temps. Bon, je l'ai fait quelques fois, c'est assez sportif. Bon, bah, c'était un flop parce que beaucoup d'ingénieurs ont démissionné. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, il y a quelques années, il y a eu un gros problème de ressources humaines dans les télécoms, France Télécom. Donc, c'est de l'époque, il y a eu des décisions qui sont prises d'en haut, on fait comme ça, pour X raisons, et qui est un vrai fiasco. Donc, ils ont été obligés de tout faire revenir sur Paris ou ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Mais pour revenir sur Grenoble,
oui.
C'est quand même une très vieille histoire. Donc, cette volonté de créer... Maintenant, je pense que tu surestimes un peu le rôle de ces têtes pensantes qui essayent de trouver une théorie sur quelque chose. Bon, après, les 3D, les machins, les trucs, ils essayent d'habiller, de vendre leurs trucs de manière originale. Voilà. Mais la volonté de... Enfin, les décisions politiques qui ont été prises à l'époque sur Grenoble et autres, c'est des décisions de très haut niveau. Donc, de ton point de vue, c'est clair qu'il y a énormément de choses qui sont terribles, humainement et... Mais d'un point de vue, je dirais, objectivement, capitalistiquement parlant, Grenoble s'en est bien tiré. Je veux dire, la recherche française sans Grenoble, elle serait, enfin je ne sais pas ce qu'elle serait, mais elle ne serait pas ce qu'elle est. Sans Lille, pareil. Je veux dire, Lille, Grenoble, c'est voilà. Bon alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ça c'est après, il faut voir.
Non mais je pense qu'il faut le dire, c'est mal. Je veux dire, les mines, le nucléaire, etc. Le point où on en est, c'est mal. On est dans une mer de noir et on ne peut pas se dire que peut-être objectivement, capitalistiquement, c'est bien. Mais je suis désolé, ça me fait sortir de mes gonds quand tu dis ils ont eu un problème de ressources humaines à France Télécom. Non, les gens se sont suicidés, quoi. Je sais pas comment tu regardes les choses, mais moi, ça me fait sortir de mes gonds, quoi. C'est pas juste c'est bien, c'est mal. Non, c'est mal. Les gens, ils crèvent, quoi. Et quand tu parlais de l'Afrique tout à l'heure, l'Afrique n'a pas besoin d'imprimante 3D. Elle a besoin qu'on arrête de piller ce continent qui n'est pas un pays, qui est un continent énorme et qui est pillé. Et s'ils sont dans la merde, c'est parce qu'on fait des imprimantes 3D. Quoi. À un moment, il faut arrêter d'inverser les causes et les conséquences. Quoi. C'est, je suis désolé. Quoi. Je vais sortir de la vie.
Mais j'ai pas de problème avec les gens en colère. Bah ouais, non, mais tu vois, c'est...
Parce que la question, c'est pas de sauver le capitalisme. C'est pas savoir s'il va pas bien ou qu'il va bien. Enfin, des fois, il va pas bien, mais il détruit tout. Et même quand il va bien, il détruit tout. Donc la question, c'est pas de savoir comment on peut le récupérer. C'est plutôt voir là comment il... Moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est comment ce système qui est quand même...
Mortifère.
Un peu, bah, mortifère, c'est sûr. Et puis en bout de course, sur plein d'aspects, arrive à créer un tel consensus autour de lui malgré tout. Et c'est ça qui est terrifiant, en fait. Parce que sinon, s'il n'y avait pas tout ce côté poudre aux yeux... C'est pour ça, quand tu dis les penseurs, machin, bien sûr, c'est pas Florida qui a fait Grenoble. Et c'est pas lui qui a décidé. Pour autant, l'influence de ces pseudo-théories, qui sont des pseudo-théories, hein, parce que Florida, ça tient pas la route 5 minutes, hein, c'est de la merde, hein, mais au niveau intellectuel, je veux dire. Mais n'empêche que ça a de l'influence. Et ce qui compte, c'est cette influence que ça a. C'est bien que... Enfin, il y a quand même une capacité à créer de l'idéologie et d'adhésion, même dans... Plus c'est la merde, et plus quand même ça a l'air de tenir l'adhésion, qui est assez effrayante, parce que s'il n'y avait pas ce truc, si on enlève tout le truc d'adhésion et que les gens voyaient exactement ce qui se passe, enfin, ça tiendrait plus du tout la route. Enfin, c'est évident, puisque c'est tellement...
Il faut espérer, en tout cas.
Bah, je pense quand même que ce serait pas possible. Donc si ça tient là, c'est parce qu'il y a une fabrique de... Oui, puis une dépolitisation, etc. Je pense qu'il y a un truc aussi, peut-être, qu'on peut souligner plus. C'est que, autant la question, le discours de « on va sauver le capitalisme par le progrès, l'écologie, c'est pas grave, on fera des puits à carbone », enfin voilà, on peut trouver plein de solutions techniques, ça peut avoir l'air de marcher tant qu'on pose pas la question de la distribution des rapports, des moyens de production et des rapports de classe, en fait. Ces questions-là, elles sont toujours... Enfin, c'est quand même assez fou qu'on parle très très peu du travail. Enfin, on peut parler d'écologie, par exemple... Mais on parle très peu du travail. Enfin, comment on travaille, qui c'est qui décide, qui c'est qui paye qui, et qui c'est qui vole une partie de ce que quelqu'un produit. C'est des vieux trucs, mais c'est toujours d'actualité. Et ça, on en parle très très peu. Mais parce que ça, je pense que c'est difficilement récupérable. En fait, ce qui est effrayant, c'est que la critique écologiste, et qui mérite d'être faite, hein, elle est hyper récupérable. Enfin, elle est déjà hyper récupérée. C'est pas pour dire qu'il faut arrêter de la faire, enfin, je veux dire, mais ça veut dire que si on l'articule pas systématiquement avec la question des moyens de production et du travail, on est foutu, en fait, parce qu'ils sont bien plus forts que nous pour se prétendre écolo, et ça marche. Enfin, les gens y croient, en partie, en tout cas. Et on arrive même à croire que le nucléaire, c'est le développement durable, donc c'est que... C'est...
Ça pourrait être durable, c'est durable.
Oui, ça c'est durable en termes de déchets, c'est très durable.
À un moment, à Grenoble, ils avaient essayé de changer l'appellation du CEA, CEA, Commissariat à l'énergie atomique, ils avaient rajouté -ER. C'était Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. Et du coup, bon, voilà, enfin... Tu vois, quand t'as des gens qui sont capables de te dire « Oui, non, c'est vrai, on a un réacteur nucléaire pratiquement au centre-ville, mais... Mais c'est cool parce qu'en fait, grâce au bâtiment d'à côté où on paye des ingénieurs pour développer des compteurs électriques communicants, on va sauver la planète, quoi. Enfin, du coup, bon, quand t'es à ce niveau-là de... Enfin, non, en fait, c'est bête, c'est un peu dommage de dire quand t'es à ce niveau-là d'absurdité, parce que moi, ça me paraît une absurdité, mais visiblement, non, c'est ce que tu dis, en fait. Ça fait consensus, ça fait idéologie, ça fait consentement, en fait. Je veux dire, il y avait vraiment tout un tas de gens à Grenoble qui trouvent ça super de ces histoires de faire une smart city avec plein d'objets communicants et tout, et qui voient pas le... Je fouille dans mon sac, mais je crois que je l'ai oublié de l'endroit d'où je viens, mais qui voient pas le côté... Bref, je l'ai pas là. Il y a deux jours, en fait, dans ma boîte aux lettres, je vous l'avais amené, c'est dommage, j'ai reçu un petit dépliant comme ça qui s'appelle « Ayez les bons réflexes » et qui est la marche à suivre en cas d'accident industriel majeur. Donc c'est une plaquette qui est distribuée tous les 4 ans dans toute l'agglomération grenobloise, puisque dans ce rayon-là, il y a 10 sites en fait sensibles. Pas que Céveso, hein, mais... Donc très concrètement, moi, le plus proche de chez moi, il est au bout de la rue, de l'autre côté de la rivière, c'est une grosse pile bleue, c'est le réacteur nucléaire en fait, quoi. Et du coup, bah voilà, il y a cette plaquette qui est... Donc, c'est quand même difficile, quand tu reçois cette plaquette dans ta boîte aux lettres à Grenoble, d'habiter à Grenoble, et de te dire, ce mode de vie-là et cette production-là, en fait, ne pose pas de problème. Parce que, à minima, elle pose des problèmes de sécurité, ou de santé, Donc, si vous voulez passer une bonne soirée, il faut lire ce truc-là, quoi, qui vous explique qu'il ne faut pas aller chercher vos enfants à l'école, qu'avant de prendre les pastilles d'iode, au cas où le réacteur nucléaire il pète, faut attendre qu'on vous le dise, c'est le préfet qui va vous le dire, on ne sait pas trop comment. Enfin bon, c'est assez incroyable, quoi. Et là où il y a fabrique du consentement, c'est que. Là, putain, mais c'est vraiment con que je l'ai. C'est vraiment dommage. La deuxième page, en fait, de ce truc-là. Il y a dans votre ville, tout près de chez vous, un certain nombre d'entreprises qui risquent de vous buter, mais c'est parce qu'elles produisent des choses dont on a tous besoin. Et en fait, c'est posé, en fait. Voilà, c'est le premier truc qu'ils avaient besoin de dire. Évidemment, en fait, au début de cette brochure, c'est « Eh, on en a besoin, hein, des mousses en polyuréthane pour les sièges de voiture, des trucs au chlore pour les peintures haute technologie, du nucléaire, enfin voilà. Donc bien sûr qu'il faut poser ça, en fait, pour pouvoir justifier derrière des trucs qui sont injustifiables, en fait, de tenir les gens par leurs besoins. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est que la question qu'on a hyper souvent, c'est faut revoir à la baisse un peu probablement les besoins, en tout cas en termes de trucs technologiques. Et après, je suis vraiment d'accord avec toi que c'est toujours plus pertinent de croiser les rapports de domination quand on analyse un truc qui se passe, et que là, dans ce bouquin, je ne l'ai pas fait pour tout, mais que c'est toujours plus intelligent, quoi.
C'est surtout autour de la récupération, parce que je pense qu'on est vraiment face à un système qui déjà, depuis longtemps, a récupéré énormément de contestations, par exemple des années 60-70. Tout ce truc-là de créativité, de je sais pas, mais même du travail plus sympa, de l'autonomie aussi. Enfin, tout ça, c'est déjà de la récup. Alors déjà, c'est dur pour nous de critiquer un truc qui est en fait un truc qu'on nous a volé, hein, en fait. Et en plus, du coup, ça veut dire qu'ils sont forts là-dedans, et donc même les trucs qu'on pourrait penser nouveaux maintenant comme contestation, en fait, ils sont aussi déjà capables de les récupérer, et ils sont bien plus forts que nous en termes de capacité de communication, de gens qui bossent là-dessus, de gens qui sont payés pour ça, alors que nous, on n'est pas payés pour faire de la contestation, on a aussi un boulot, enfin voilà. Donc je pense que c'est très important, vu qu'on est ultra minoritaire, de faire gaffe quand on met en œuvre des choses, de pas en plus tout de suite les servir sur un plateau de trucs super récupérables. Enfin, dans ce cas-là, on se tire une balle dans le pied, quoi. Voilà. Donc, se rendre irrécupérable tout en étant intelligible par les autres, eh ben, c'est pas facile.
Où sont les chefs ? Que disent les chefs sur la suite de la discussion ? Qui est votre porte-parole ? C'est ce qu'ils disent dans les... Donc on va prendre une décision au consensus avant que tout le monde remette sa capuche. Non, on dit qu'on continue la discussion tranquillement... Merci.
C'était Didier Moineau pour son livre « Dérive dans une ville créative ».
Radio Livre Dormir.